Je suis Gaspard, roi et mage, et voici Balthazar.
Tous les jours sur Europe 1.
Et nous devons sans tarder trouver notre ami Melchior et guetter le signe qui nous mènera au Messie.
Historiquement vôtre.
And so I wish you all of a very happy Christmas.
Je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient mort aux boches chez eux, bien au chaud devant leur dindon marron.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Clémentine, bonjour Jean-Luc, bonjour David.
Bonjour Stéphane.
Bonjour, c'est bien de répondre, c'est gentil. Et celui qui est aussi avec nous aujourd'hui, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Bonjour Olivier
Pouls.
Bonjour
Pouls. Stéphane.
Ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont cependant un point commun. Aujourd'hui...
Oui, merci Edith, c'est vrai que je provoque souvent ça. J'y peux rien, c'est comme ça.
Vous êtes sûr qu'elle parlait de vous, Jean-Luc ?
En fait, non.
Ah voilà, c'est bien ce que je me disais aussi. Alors, à défaut de pouvoir la prendre dans les bras, ce sont trois personnages que l'on va prendre par la main aujourd'hui. Trois personnages qui ont fait voir... à d'autres, mais à nous aussi. C'est le thème d'Historiquement Vôtre, cet après-midi.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Vous me direz quand vous avez une overdose. Avec celle que l'on écoute et dont on ne se lassera, en tout cas pour ma part, jamais, Edith Piaf et sa vie en rose. Qu'elle a fait voir, qu'elle a chanté, et surtout à tous ceux nombreux qui voulaient bien l'entendre, alors que la sienne de vie, elle n'était pas franchement rose. Mais avant Piaf, je vous raconte une autre grande dame, moins connue, et pourtant, elle était artiste et modèle, et sa rencontre avec un certain Picasso va souffler au peintre, celle qu'on appelle alors sa période rose, l'oublié Fernande Olivier. Et après les morts, le vivant, c'est vous, Jean-Luc Lemoine, qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, un président de club de rugby qui a fait voir la vie en rose, lui aussi, mais à ses joueurs.
Oui, Max Guazzini a fait porter un maillot rose à ses joueurs du Stade français. Une première dans le rugby qui n'est pas passée inaperçue, vous vous en doutez.
Ça, j'imagine. Eux non plus ne passent pas inaperçus, même lorsqu'ils ne sont pas en rose. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde... Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ah, puis alors là, vous allez être fiers de moi parce que je vous ai déniché un personnage que vous ne connaissez pas, j'en suis certaine, et qui fit voir la vie en rose au roi soleil en personne. C'était son secrétaire, Toussaint Rose, dit la plume de Louis XIV. Et oui, derrière les grands hommes, il y a souvent de grands secrétaires et de grands chroniqueurs.
Ah Ben voilà qui nous intéresse.
Il y a un petit message qui est passé quand même. Hein.
Vous avez titillé notre curiosité. Ouais. Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne. Aujourd'hui, il colle au thème.
Mais avec une proximité folle. La couleur rose.
Oui.
D'où vient-elle?
C'est David Castello-Lopez. Parce que j'avais pas dit votre nom encore.
Ah oui, il faut le dire. Redites-le peut-être.
David Castello-Lopez.
Voilà, exactement.
Voilà. Vous parlez de la couleur rose.
De la couleur rose, de l'histoire de la couleur rose.
Dans les origines, c'est exact. En toute fin d'émission.
Tout à fait.
Et juste avant, comme dirait l'autre.
Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque.
Oui, mes aïeux, quelle époque, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte dans les années 50. On parle cuisine avec vous, Olivier Pouls. Et si à cette époque, le poste de télévision commence à s'installer dans la cuisine s'invite désormais à la télé.
Oui, première émission de télévision, vous allez être surpris, j'en ai retrouvé un petit extrait.
C'était pas Raymond Olivet ?
Non, il y en
avant
a eu un
Raymond
avant, absolument. Non. Pourtant, vous étiez là, non Stéphane, déjà ?
Pas dans les années 50, non. Je n'ai même pas,
pas
une idée, non.
Ah.
Eh bien, mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure, vers 17h45.
Et vous avez tout dit, Stéphane ?
En tout cas, pour ce qui me concerne, oui.
Non, bah justement, non. Écoutez, Born to be Alive.
Ah oui, c'est le fameux quiz pseudo-historique Born to be Alive. D'ailleurs, on pourrait trouver un autre jeu de mots avec Bern Born, je sais pas. Pourriez-vous creuser un peu la tête, Jean-Luc ?
Oui, bah j'avais pensé à Bern Toulouse, vu vos derniers résultats.
Oui. Bon, bah, Born to be Alive, c'est très bien. Parce que si vous dites Born to be Alive, on pense à la Première Ministre. Pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Sa rencontre avec le jeune Pablo Picasso a marqué le début de la période rose du peintre. Elle a été son premier grand amour, a contribué avec lui à révolutionner le monde de l'art et est tombée pourtant dans l'oubli. Je vous raconte maintenant une artiste et modèle du début du siècle dernier qui a laissé un témoignage unique de ses années au sein de la bohème artistique montmartroise et de la célèbre bande à Picasso, Fernande Olivier. Nous sommes un soir de l'été 1905 sur les hauteurs festives et malfamées de Montmartre. Dans ce quartier en marge du Paris haussmannien, les artistes sans le sou viennent chercher inspiration en menant une vie de bohème. Là, à deux pas de la basilique du Sacré-Cœur, encore inachevée, c'est une nuit comme les autres qui commence au cabaret du Lapin Agile. Quand ils ne travaillent pas dans leurs ateliers du bateau Lavoir, modeste superposition de logements en bois vétuste situé au 13 de la rue Ravignan, c'est à cette adresse que les poètes, les peintres et leurs muses se donnent rendez-vous. Comme souvent, le propriétaire du lieu, Frédéric Gérard, que tout le monde surnomme le père Frédé, a sorti sa guitare. Il joue à un air joyeux, tandis que quelques jeunes habitués attablés autour de lui l'accompagnent en chantant. Il y a les écrivains Apollinaire et Salmon, les peintres Modigliani et Van Dongen, Max Jacob, le touche-à-tout, et puis, parmi cette bande d'artistes encore méconnus, il y a aussi un certain Pablo, un Espagnol surdoué et timide, arrivé à Montmartre voilà un an maintenant. Pablo Picasso, puisque c'est bien de lui dont il s'agit, est assis à côté de celle qui partage sa vie, Fernande Olivier. Lui est artiste, elle, son modèle attitré. Et ils forment ainsi un duo inséparable. Ils ont le même âge, 24 ans, sont amoureux et se respectent. Fernande Olivier n'est pas habituée à être traitée avec autant d'attention et de délicatesse par un homme, ni par qui que ce soit d'ailleurs. Alors, avec le peintre andalou et leurs colocataires insouciants du bateau Lavoir, la Parisienne est heureuse, très heureuse, écrit-elle. Ce bonheur, Fernande Olivier le savoure d'autant plus que la vie le lui a longtemps refusé. Avant de devenir modèle à l'âge de 19 ans à la faveur d'une rencontre avec le sculpteur Laurent Debienne, la jeune fille a vécu l'enfer. À cette époque terrible de sa vie, elle ne s'appelle pas encore Fernande Olivier, mais Amélie Lang, son nom de naissance. Dès sa venue au monde, le 6 juin 1881, Amélie a souffert. Née hors mariage, abandonnée par ses parents, elle est élevée par une tante sévère, gérante d'un petit commerce qui la livre à seulement 17 ans à son bourreau et mari, Paul Percheron. L'homme a 25 ans quand il jette son dévolu sur Fernande Olivier. Il ne lui plaît pas le moins du monde, mais a-t-elle son mot à dire? Après l'avoir invité à boire un chocolat chaud, Paul Percheron incite Fernande à passer la nuit chez lui et la viole pas moins de 7 fois. Dans une société bourgeoise où les femmes ne peuvent qu'être des jeunes filles pures ou des épouses, Fernande Olivier ne peut dès lors plus lui échapper. Après plusieurs semaines de calvaire, elle tombe enceinte d'un fils qu'elle abandonnera comme elle l'avait été. Impitoyable, la tante de la victime lui ordonne alors d'épouser son agresseur.
« C'est ta faute. Quand on est vicieux, on est puni. Tu dois te marier, tu te marieras. Ou je ne veux plus entendre parler de toi et tu iras en maison de correction. »
Le mariage est célébré le 8 août 1899 et la nature de leur relation ne change pas. Adolescente, Fernande Olivier avait déjà connu les abus sexuels d'un oncle. Traumatisée encore davantage par la férocité de son époux, elle en arrive à une conclusion simple, triste, mais qui lui semble alors évidente et qu'elle consigne dans ses souvenirs intimes qui seront publiés à titre posthume. L'amour, c'est une belle saleté. Depuis ses 15 ans, Fernande Olivier allège sa peine en la traduisant ainsi à l'écrit dans un journal. Est-ce la brutalité de son existence qui lui confère cette plume si forte, si naturelle et sincère qu'admire et lui envie l'écrivain Paul Léoto? Il faut dire que Fernande Olivier a du courage à revendre. Après plusieurs mois d'enfermement et de violence conjugale, elle le prouve en ayant l'audace de s'enfuir. Nous sommes alors en 1900. Et tandis que l'exposition universelle de Paris annonce en grande pompe le siècle qui s'ouvre, Fernande Olivier entame une seconde vie. À 19 ans, elle tire un trait sur son passé en choisissant un nouveau nom. Amélie Percheron, épouse opprimée et silencieuse, devient Fernande Olivier, modèle professionnel et écrivaine en devenir. C'est sous ce pseudonyme qu'elle s'installe dans l'atelier du sculpteur Laurent Debienne, avenue du Maine d'abord, puis dès 1901 au bateau Lavoir, la fameuse résidence d'artistes de Montmartre. Au cœur de ce foyer culturel ardent où se croisent différentes nationalités, Fernande Olivier pose entre autres pour le peintre italien Giovanni Boldini, le catalan Ricard Canals ou encore Joachim Sunyer, catalan lui aussi, qui devient son amant. Mais ce n'est pas lui, l'Espagnol, qui va changer sa vie. L'homme avec qui Fernande Olivier connaît ses seuls jours heureux, vous l'avez compris, c'est Pablo Picasso. Après avoir intégré le bateau Lavoir au printemps 1904, Picasso rencontre un jour sa voisine alors qu'il revient de déjeuner, un petit chaton dans les bras. Il le lui offre, puis lui fait visiter son atelier. Dans le désordre de la pièce, Fernand Olivier découvre alors les tableaux froids et déchirants de Picasso. Des toiles à dominante bleue que lui a inspiré le suicide de son ami Carlos Casagemas, survenu 3 ans auparavant. C'était la fin de la période bleue, racontera Fernand Olivier. Car après leur union, par une nuit d'orage du mois d'août 1904, les deux amants reprennent goût à la vie. Et ce bonheur, Pablo Picasso va maintenant en imprégner ses toiles, entamant ainsi celle qu'on appellera sa période rose. Dans l'aquarelle baptisée « Méditation » qu'il peint à la fin de l'année, Picasso se représente assis à côté de son lit, contemplant Fernand Olivier endormi. Sur cette peinture, le bleu synonyme de chagrin laisse déjà place à des nuances de rouge et de beige, plus chaudes et plus joyeuses. Amoureux, le peintre aborde aussi, au cours de sa période rose, des thèmes d'une gaieté nouvelle. Il s'intéresse au monde du spectacle et s'inspire notamment du cirque Medrano, où il se rend régulièrement avec son amante. Sur ses toiles, harlequins, jongleurs et acrobates remplacent tour à tour les aveugles, les mendiants et les morts. Ce changement de ton lui réussit. En 1906, Picasso sort de la misère en vendant plusieurs œuvres au marchand d'art Ambroise Vollard. Un an plus tard, il peint au bateau Lavoir un tableau aux lignes géométriques, fondateur de l'art moderne, les Demoiselles d'Avignon. Cette évolution vers le cubisme à laquelle Fernand Olivier participe en lui servant de modèle fera la fortune et la gloire de Pablo Picasso. En 1909, lui et sa compagne s'installent dans un appartement confortable au 11 boulevard de Clichy. Mais Fernand Olivier profite peu du succès de l'Espagnol. La période rose s'éloigne et après des infidélités et des disputes répétées, le couple se sépare en 1912. À seulement 31 ans, Fernand Olivier cesse alors définitivement son activité de modèle et vit difficilement de métiers précaires, dont celui d'artiste peintre. Elle partage un temps la vie de l'acteur Roger Carle, mais cela ne l'empêche pas de devoir gagner la sienne. En 1930, à près de 50 ans, Fernand écrit plusieurs articles sur l'époque de la bohème montmartroise. 3 ans plus tard, elle publie avec l'appui de l'écrivain Paul Léoto le livre « Picasso et ses amis ». Même septuagénaire, bien qu'affaibli par l'arthrite et la surdité, Fernand Olivier songe à faire paraître ses souvenirs intimes écrits à partir de son journal à l'intention de Picasso, mais le peintre star le lui interdit. Il préfère lui offrir 1 million de francs chaque année pour l'aider à survivre. Cette autobiographie est finalement éditée en 1988, 22 ans après le décès de Fernand Olivier et 15 ans après celui du peintre qui ne la lira donc jamais. Picasso, auprès de qui on l'a compris, vivre n'a pas toujours été rose.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Fernand Olivier avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir 2 femmes qui retracent sa vie dans une exposition inédite au musée de Montmartre à Paris. Bonjour Saskia Oums, bonjour Fanny de Lépineau.
Bonjour.
Fanny de Lépineau, vous êtes directrice du musée de Montmartre où vous présentez cette très belle exposition intime du modèle et écrivain Fernand Olivier et Pablo Picasso dans l'intimité du bateau Lavoir. Déjà, il s'agit de la première rétrospective auprès de cette femme. C'était important pour vous de lui rendre hommage?
Oui, c'était important et très important de le faire au musée de Montmartre. Le musée est situé à quelques centaines de mètres du bateau Lavoir. Alors comme ça, de l'extérieur, c'est un vieux bâtiment délabré au début du XXe siècle. Mais à l'intérieur, ça, c'est tout plein de ces artistes qui feront les heures de gloire de Montmartre et les plus grands artistes du XXe siècle. Et nous-mêmes, au musée de Montmartre, nous sommes, les bâtiments en fait accueillaient au début du XXe siècle des ateliers d'artistes. Renoir est passé par là, Dufy, Camoin, ce qu'on appelait le trio infernal, Valadon, Uther et Utrio. Et c'est un lieu très intime. Oui. Pour comprendre, il faut y avoir mis les pieds, mais on a vraiment cette sensation que l'âme des artistes flotte dans les airs et pouvoir faire résonner la parole de Fernande et la faire dialoguer avec tous ces grands artistes qu'elle a côtoyés, je trouvais que ça prenait vraiment toute sa place au musée de Montmartre.
Et justement, Fanny de Lépineau, vous expliquez dans le catalogue de l'exposition que vous souhaitiez mettre en avant le rôle de cette femme oubliée. Pourtant, dites-vous, témoin intime d'une époque, celle de la bohème montmartroise, celle de la naissance de l'art moderne. Le témoignage de Fernand d'Olivier est capital pour comprendre l'effervescence artistique de cette époque.
Oui, il est capital, mais je dirais qu'il est surtout unique, en fait, parce que Fernande, voilà, a vécu au Bateau-Lavoir dès 1901. Elle a côtoyé tous ces artistes, qui ne savent pas d'ailleurs qu'ils seront parmi les plus grands artistes du XXe siècle. Il y a Picasso, Braque, Matisse, Derain, Vlaminck, Apollinaire. Et c'est ça qui ont fait sa rareté. Elle écrit d'ailleurs, j'ai vécu avec eux plus près d'eux que n'importe qui, puisque chez Picasso, c'était aussi chez eux. J'ai vécu de leur existence, je les ai vus vivre, souffrir, penser, espérer et surtout travailler. Je peux donc, sans craindre de voir mal interpréter mes souvenirs, montrer leur vie secrète et laborieuse. Mmh. C'est vraiment ça la force de son témoignage.
Clémentine ?
Oui, Saskia Holmes, vous êtes responsable de conservation au musée de Montmartre et commissaire de l'exposition. On imagine donc que ces écrits très précieux de Fernand d'Olivier vous ont particulièrement inspiré pour cette exposition. Ils servent même de fil rouge. Mais que vouliez-vous montrer de cette femme ? Parce qu'elle est un témoin très précieux, mais est-ce qu'elle n'est que ça ? Est-ce qu'elle est plus que ça ?
Alors pour nous, Fernande Olivier est une femme remarquable, une femme de tête, une femme de lettres, courageuse, intelligente. Nous avons voulu faire connaître cette femme au public. En effet, ses ouvrages nous ont inspirés pour créer l'exposition. Et comme vous dites, les extraits de ce texte commentent les œuvres présentées dans l'exposition. Les œuvres de Picasso, tout d'abord, mais aussi tous les artistes du Bateau-Lavoir. Ses souvenirs intimes, de publiés de façon posthume, sont directs et sincères, émouvants surtout, et livrent un témoignage pionnier sur la condition de la femme et la condition de la vie de modèle, qui est assez dure à l'époque. Le second ouvrage, publié de son vivant en 1933, Picasso et ses amis, compile ses observations originales, parfois tranchantes, sur les personnalités du Bateau-Lavoir, artistes, mécènes. C'est une expérience vécue tout d'abord, une relation directe avec ces artistes qu'elle a côtoyés, dont elle partageait la vie quotidienne. Et Paul Léoto, quand même grand écrivain, loue ses écrits, il dit « il n'y a pas d'autre mot, merveilleusement écrit ». Tandis que Picasso, à l'instar de Salmon et Jacob, dit aussi que l'ouvrage est le plus authentique tableau de son époque.
Ça, c'est quand même, je l'ai raconté dans mon récit, Fernand d'Olivier rencontre Picasso en 1904 au Bateau-Lavoir. Elle évoque avec nostalgie cette rencontre avec le peintre et la première visite de son atelier avant qu'il ne devienne l'artiste mondialement connu. Alors, on écoute d'abord cette archive de Lina.
Il y avait des toiles par terre, il y avait un petit lit dans le coin qui nous a servi pendant des années, une petite table en bois blanc où il y avait des souris blanches dans le tiroir. Alors nous avons vécu là, tant bien que mal, plutôt bien que mal, parce que quand on est jeune, avec beaucoup de monde, Apollinaire, Salmon, Max Jacob naturellement, et la table était ouverte, avec 3 francs, je faisais la tambouille pour tout le monde. Et on n'avait pas souvent les 3 francs. Mais enfin, ça s'arrangeait toujours.
On peut dire qu'elle est très vite tombée sous le charme du peintre.
Oui, absolument. Mais Fernande a quand même hésité pendant 1 an avant de s'installer avec lui. Elle hésite à perdre son autonomie, ce qui est normal. Elle écrit d'ailleurs, Picasso même sincèrement, « Acceptez la misère avec un être parce qu'il vous aime, seulement pour cela. Mais ce n'est pas possible, j'aime mieux travailler. » Si les gens savaient ce que c'est la vie d'un modèle sérieux, on serait moins méprisant pour elle. Elle le fait quand même, elle s'installe avec lui dans son atelier et Picasso demande qu'elle arrête de poser pour les autres peintres.
Mais Picasso semble tomber aussi sous le charme de Fernand d'Olivier. Vous expliquez d'ailleurs, Fanny de Lépineau, dans le catalogue de l'exposition, qu'il a dédié un hôtel à son modèle. C'est une histoire passionnée, très forte entre les deux.
Oui, c'était vraiment le premier grand amour, je crois, pour tous les deux. Et pour Pablo, c'était la première fois qu'il s'engageait dans une vie commune avec une femme. En effet, c'est assez symbolique. Picasso avait monté un petit hôtel dans son atelier destiné à Fernande. Il avait accroché au mur son portrait qui était dessiné à la plume et puis en dessous des bougies allumées.
Ah oui.
Il était possessif, mais sans doute très attentionné. Et en effet, la vie ne devait pas être rose tous les jours. Mais Fernande écrivait, comme vous l'aviez dit, qu'elle était heureuse, très heureuse.
Clémentine.
Il était dans dans une forme de dévotion vis-à-vis d'elle, mais elle a été, vous le disiez Stéphane, le déclencheur de sa période rose, parce que quand on est heureux, évidemment comme artiste, on ne produit pas la même chose que quand on souffre. Mais est-ce que vous diriez, Saskia Holmes, comme historienne de l'art, qu'une autre femme a eu une même influence sur l'œuvre de Picasso par la suite?
Alors, Daniel Henri Kahnweiler rapporte de l'art de Picasso qu'il est essentiellement autobiographique. Pour le citer, il a dit « Picasso n'a jamais fait autre chose qu'écrire son amour sur ses tableaux ». Donc il est certain que toutes les femmes avec lesquelles Picasso a eu une relation amoureuse ont compté dans sa création. Cela dit, pour moi, cette relation entre Fernand et Pablo est la plus importante pour le peintre, parce que Fernand joue un rôle clé dans sa représentation et l'évolution de son style, de la fin de la période bleue jusqu'à l'invention du cubisme. Cette alchimie autour de son visage imprègne les œuvres de Pablo. À titre d'exemple, quand Fernand et Pablo sont partis à Gozol en 1906, Picasso a créé presque 300 œuvres à partir du visage de Fernand, dont il n'a cessé de s'inspirer.
On découvre à travers les ouvrages de Fernand Olivier, Picasso et ses amis, en 1933, et Souvenirs intimes, publiés longtemps après, en 1988, à quel point elle avait un regard très affûté et très pertinent sur les œuvres de Picasso, mais aussi d'autres artistes de ce cercle Montmartrois. Et au fond, elle avait l'étoffe d'une critique d'art.
Absolument. Fernand défend la peinture fauve de Vlaminck. Elle parle de l'art sain et vigoureux de Derain. Elle admire Matisse, qu'elle considère brillant et profond. Elle aime beaucoup le douanier Rousseau, un grand talent de peintre primitif. Elle dit de Freundlich qu'il est enthousiaste et fou. Et toutes ses œuvres, on peut les admirer dans notre exposition. Sur le cubisme, à part de Picasso qu'elle nomme le créateur, et Braque, elle écrit qu'elle ne voit pas trop ce que les autres apportent comme élément nouveau. Pour la citer, le cubisme aurait servi beaucoup d'artistes qui, sans lui, n'auraient jamais percé. Il leur a épargné le souci de se créer une personnalité qui n'était pas en eux. Ce qui est fabuleux, c'est que ses écrits restituent avec lucidité et un œil critique ce foisonnement artistique.
Fernand Olivier et Picasso sont séparés en 1912, alors que la popularité de Picasso explosait. Elle écrit d'ailleurs « Je fus la compagne fidèle des années de misère, je n'ai point su être celle des années prospères. C'est à cette époque que je me suis retrouvée heureuse, c'est là aussi hélas que j'ai laissé une partie de ma jeunesse et toutes mes illusions. » Alors Saskia Holmes, pour vous, sa vie s'est quasiment arrêtée là, ça a été la plus grande douleur de sa vie, cette séparation, croyez-vous ?
C'était quand même une séparation terriblement douloureuse pour elle, qu'on lit dans ses écrits nostalgiques. À la fin de sa vie, elle écrit à Picasso pour le remercier de l'argent qu'il lui envoie, et on sent dans ses lettres qu'elle est touchée, que son amour est toujours en elle. Elle écrit « Pablo que j'ai aimé, plus qu'il n'y s'est jamais douté ».
Une belle histoire d'amour, en tout cas. Merci beaucoup, Saskia Holmes. Merci, Fanny de Lépineau, d'être revenue avec nous sur cette femme quelque peu oubliée aujourd'hui. Et c'est fort injuste. Et pourtant, elle a fait voir la vie en rose à un artiste incontournable de l'histoire de l'art. Je rappelle donc qu'il faut aller voir cette exposition que vous lui consacrez au musée de Montmartre. Fernand Olivier et Pablo Picasso dans l'intimité du bateau Lavoir, qui retrace avec beaucoup de sensibilité le parcours et la vie de ce modèle écrivaine, observatrice de la vie artistique de son temps. C'est à découvrir jusqu'au 19 février prochain. Puis il y a aussi un très beau catalogue. Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Oui, un petit indice musical pour vous mettre sur une piste.
Il est libre, Max.
Max. Alors, vous trouverez jamais laissé tomber. On va parler de Karl Marx. Il est libre Marx aujourd'hui. Et on va parler de plein de choses aussi.
Avant cet affrontement, eh bien, je lui laisse la parole. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez celui qui a fait voir la vie en rose au roi Soleil. Il portait bien son nom. Toussaint Rose,
c'est joli,
dit la plume de Louis XIV.
Oui, c'est joli. Hein. C'était un curieux personnage, Toussaint Rose, très discret, d'ailleurs pour cette qualité très estimée du roi, dont il jouissait de la confiance et de la protection. Il était né à Provins en 1611, dans une famille de la bonne bourgeoisie locale, et il va suivre des cours à la Sorbonne, obtient le grade de licencié en droit civil et canonique, et devient avocat. Et il est pendant 2 ans avocat à Provins. Et puis, en 1636, il quitte Provins pour s'établir à Paris, prête serment, se fait recevoir au Parlement. Et la chance de cet homme, sans doute aussi son talent, est lié à son efficacité et à son travail, c'est que d'emblée, il a été employé par de très puissants personnages qui ont fait sa carrière. Il a passé 18 mois à travailler pour Richelieu, ensuite pour un jeune seigneur de guerre, Jean-François-Paul de Gondi, futur cardinal de Retz. Après quoi, il est attaché à la personne de Mazarin. Et quand Richelieu meurt en 1642, Mazarin devient tout à coup un personnage très important et dans sa roue, d'une certaine manière, eh bien, Toussaint Rose, évidemment, lui aussi, prend du galon. 1645, il est anobli. Il va servir Mazarin 12 années et Mazarin, qui l'apprécie énormément, va l'aider à devenir secrétaire particulier du roi. 25 avril 1657, brevet royal, ça y est, Toussaint Rose est secrétaire particulier de Louis XIV. Mais vraiment, il faut croire que cet homme-là était très apprécié de ceux qui l'a servi, parce que quand Mazarin meurt 3 ans plus tard, le 9 mars 1660, il a légué par testament à chacun de ses secrétaires un diamant de 4000 livres. Hein. Voilà ce que Mazarin a fait pour ses secrétaires, oui, hein, Stéphane. Un beau diamant de 4000 livres.
Aurait-il fallu que je les possédasse?
Magnifique. Alors là, magnifique. Ça, c'est de l'or en barre. Hein. Bon, donc, en tout cas... Il est très apprécié, disais-je, et y compris d'ailleurs de la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, qui a très confiance en lui et qui pousse son fils à lui faire confiance, à le faire travailler, à lui confier.
Mais son poste consistait en quoi?
Il écrit. Il est la plume de Louis XIV. La rapidité de sa plume étonne tous ceux qui l'approchent. Il écrit aussi vite qu'il parle. Et de par sa charge, il fait ce qui coûterait la vie à tout autre que lui, puisqu'il écrit une grande partie des lettres de la main du roi, dont il imite l'écriture et le style à s'y méprendre. Et c'est ainsi d'ailleurs que beaucoup des lettres qui passent pour être de Louis XIV sont en réalité de la main de Toussaint Rose. Parce que si vous voulez, dans les premières années de son règne, Louis XIV s'astreint très sérieusement à lire toutes les lettres de ses secrétaires avant de les signer. Mais il ne peut pas faire face à la quantité de travail et de correspondance et de dossiers qu'il a à signer. Donc avec Rose, en qui il a toute confiance et qui sait parfaitement imiter son écriture, eh ben il finit par ne pratiquement plus corriger ce qu'écrit Toussaint Rose, et il sollicite en plus ses conseils. Car Rose est très fin, il a beaucoup d'esprit et une qualité insigne pour un souverain qu'ont aussi vos chroniqueurs, Stéphane, la franchise.
Pourquoi vous riez à ça?
Non, je ne sais pas. Non, je ne ris pas.
Vous visez quelqu'un.
Alors, voilà, ne pas, il sait ne pas flatter le roi, hein, et manifeste parfois cette sincérité un peu brutale que Louis XIV apprécie, ce qui ne lasse pas d'irriter certains courtisans et grands seigneurs. Tout le monde se sent visé autour de lui.
Bon, pas d'accord. Du tout, non.
Bon, enfin, Rose, en tout cas, il a de l'influence sur le souverain. Saint-Simon, qui était vraiment très rapide, très prompt à étrier ses ennemis et ses contemporains, a témoigné de la qualité du travail de Rose. Il n'est pas possible de faire parler un si grand roi avec plus de dignité que le fait Rose. Et le grand moraliste La Bruyère, dans son discours de réception à l'Académie française, mentionne Rose, cet homme habile, plein d'esprit et d'expérience, qui par le privilège de sa charge fait parler le prince avec dignité et justesse. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a une grande question autour de l'authenticité de la correspondance de Louis XIV. Quelle part le roi prenait-il dans la rédaction de ses lettres? Qui donc les a écrites? Louis XIV, je le disais, n'avait pas le temps de rédiger toutes les lettres qui porte sa signature, d'autant que lui n'avait pas la plume facile, en revanche.
Et on n'arrive pas à faire la différence entre les lettres sont signées de la main de Louis XIV et celles de Toussaint Rose.
Il faudrait procéder à un examen beaucoup plus précis, beaucoup plus en profondeur. Sans doute, voyez les techniques modernes qu'on a appliquées aux fameuses lettres de Fersen à Marie-Antoinette qui ont été caviardées. Donc, il faudrait peut-être que dans ces conditions-là, on y parviendrait. En tout cas, comme marque de sa satisfaction, Louis XIV confie à Rose en 1684 l'office de conseiller président en la Chambre des comptes de Paris. Jusqu'à sa mort à 86 ans, celui qu'on surnomme le bonhomme Rose restera en bonne santé, jouissant d'une mémoire nette et admirable et d'un esprit malicieux et sceptique. Il s'éteint le 6 janvier 1701. Enfin, moi, je retiens surtout Madame Mazarin qui laisse des diamants à ses secrétaires.
Oui, mais voilà, aussi.
Ça m'a très favorablement impressionné.
Je vous comprends. Merci beaucoup, Clémentine.
Il enchaîne. Allez,
c'est le moment de l'émission, vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est donc vous, Jean-Luc, qui prenez la main et qui offrirez des diamants. C'est le quiz Burn to be Alive qui arrive.
Allez, c'est parti. On va commencer avec une question pour vous, Stéphane, justement. Une question qui porte sur l'Allemagne. Vous aimez l'Allemagne?
Oui, beaucoup.
Alors, on va parler de Günther Kant.
Ah ben là, j'aime moins déjà.
Günther Kant, plutôt, parce qu'il y a un QU, était à la tête d'une des familles les plus riches d'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Volontiers généreux financièrement avec le parti d'Adolf Hitler, il a allègrement profité de la main-d'œuvre des travailleurs forcés et des prisonniers de guerre dont beaucoup périrent. Très proche des hauts dignitaires nazis, il était néanmoins fâché avec Göring, car ce dernier lui avait embouti sa Mercedes longue de 5,60 m. Vrai ou faux?
Göring a embouti la Mercedes de Quant. Une Mercedes de 5 mètres, vous vous rendez compte, Stéphane?
5,60 m.
Grosse voiture.
Ce serait drôle, non?
Oui. Voilà.
Moi j'ai envie d'y croire. Oui.
Vous avez envie d'y croire?
Oui, ça m'amuse.
C'est une belle histoire.
Une belle histoire, en effet. Entre deux salauds.
C'est exactement. Et ben on écoute si c'est. Vous avez une bonne intuition ou pas?
Vous avez perdu.
Non, je suis désolé. En fait, il était pas brouillé avec Göring, mais avec Goebbels.
Oui, enfin c'est. C'est blanc bonnet.
Non, est-ce que vous voulez connaître la raison de cette brouille? Magda était sa première femme.
Ah, elle a eu un fils avec lui.
Cette dernière s'est remariée 2 ans après le divorce avec Joseph.
Ouais, c'est le seul qui a survécu.
Voilà, donc c'est une belle histoire quand même.
Ouais, super.
Ah oui, voilà. Vraiment, on va raconter la veille de Noël, me semble-t-il. Oui.
Je vous rappelle que celui qui perd offre des diamants aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Question numéro 2 pour Clémentine.
Diamant pas petit, comme vos questions.
Oh là là.
Ah, oh là,
il a son petit ami.
Il
s'énerve.
Il n'est pas content.
16 avril 1850. Nous sommes le 16 avril 1850. Que se passe-t-il? Dans le Maine, près d'Angers.
Dans le Maine, près d'Angers, le 16 avril 1850, Louis-Napoléon Bonaparte est en visite officielle pour sa campagne électorale.
Ce n'est pas ça. C'est la catastrophe du pont de la Basse-Chaîne.
Ah oui.
Vous connaissez ça. Non, mais vous êtes monsieur patrimoine, évidemment. Vous connaissez toute l'histoire du moindre pont qui enjambe le moindre cours d'eau.
Le 11e régiment d'infanterie légère franchit le pont. La marche et les vibrations causées par les pas provoquent l'écroulement du pont. Plus de 220 morts sont à déplorer.
Mazette.
Après cette catastrophe, une loi a été prise. Pour s'engager dans l'armée, il faut déclarer sur l'honneur que l'on sait nager. Vrai ou faux?
Mais qu'on ait demandé aux soldats s'ils savaient nager, je le crois volontiers, mais qu'on ait dû s'engager sur l'honneur à savoir nager, ça j'ai du mal à le croire. Non, je répondrai non.
Vous répondez non? Ok, eh ben on vérifie.
Vous avez gagné.
Bravo Clémentine.
Désolé.
Ça aurait été tellement bien.
Je fais ce que je peux pour plonger dans les profondeurs.
En fait, il faut répondre le truc le plus nul et ça marche.
Oh là, mais vous avez beaucoup d'amertume en vous, Stéphane.
Le plus nul, excusez-moi.
Elle a été brillante, simplement.
J'ai répondu le plus logique.
Non, mais pour éviter l'armée de dire non, j'ai pas nagé, je suis désolé, je peux pas. Hein, j'ai piscine. Alors non, c'était faux. Apparemment, le pont était suspendu par des câbles en fer déjà oxydés et le nombre de victimes était alourdi par le fait que les soldats avaient des baïonnettes et une législation militaire existait déjà pour interdire les marches au pas sur les ponts. Les funérailles des victimes furent organisées en présence du président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte.
Ah, vous voyez qu'il était quand même de la partie.
Ah bah oui, à cette époque, il y avait des chances. Une question pour Stéphane.
On l'appelle la question des diamants.
La peur.
Oh bah, ça tombe bien qu'on parle de diamants, puisqu'on va parler de Karl Marx.
Ah oui.
Karl Marx est mort à quel âge ?
Il doit avoir une soixantaine d'années.
C'est bien. Je vous donne un demi-point déjà. Il est mort à 64 ans. Il est né à Trèves, en Allemagne, décédé à Londres. Si vous voulez voir sa tombe, elle est au cimetière de Highgate.
Highgate à Londres. Il faut payer d'ailleurs pour voir
ça. Mais il sait tout, il sait tout.
Ah, ça l'a marqué. Il n'en est pas à nous donner des diamants. Il se souvient qu'il a payé l'entrée.
Il avait un problème avec l'argent quand même.
Donc c'est payant, vous l'avez dit, il faut compter à peu près 5 euros. Et sur sa stèle, il est écrit « Property is theft ». Comprenez la célèbre phrase de Proudhon, « La propriété, c'est du vol ». Vrai ou faux ? Alors, si vous y avez été, vous devez savoir.
Non, je ne me souviens pas d'avoir lu ça.
Ça serait curieux.
Vous avez lu quelque chose, quand même.
J'ai lu quelque chose, c'est son nom, déjà.
Ou juste le ticket de caisse, en disant, 5 euros, c'est cher.
Non, écoutez, franchement, c'est pas un mot à laisser sur sa tombe.
Non.
Il n'aurait pas mis ça.
C'est pas écrit ça ?
Non.
On écoute la réponse.
Vous avez gagné !
Vous avez gagné, c'était faux. Il est écrit, Worker of the World, Unite.
Oui.
Soit travailleurs de tous les pays, unissez-vous.
Qui était à l'origine une phrase de Flora Tristan, comme chacun sait.
Une question pour vous, Clémentine.
Oui.
Cela fait 40 ans que Grace Kelly nous a quittés.
Oh là, c'était plutôt pour vous, Stéphane.
Oui, on mélange, justement. Princesse consort de Monaco en 1956, elle fut à ses débuts, vous le savez, une actrice de légende. Bon, je pense pas que vous me contredirez autour de cette table, mais j'ai quand même une question. Grace a fait de la pub pour de l'anti-moustique. Vrai ou faux ? Voilà, moi si je peux en rendre hommage. Hein.
Non, il y avait Wizard Tech. Wizard Tech.
C'est votre ami Nana Mouskouri, ça.
C'est un désodorisant.
Dans le champ.
Wizard.
Et Grace Kelly a fait ça, Stéphane ?
Oui, c'est bien connu. Oui.
Et où en sommes-nous, là ?
Ah bah, je veux savoir s'il a fait
de l'anti-moustique. Non, mais des points.
Un partout, si vous gagnez, vous remportez.
Je vais répondre non, je la vois pas faire de la pub pour un anti-moustique.
Mais vous avez bien raison, on écoute la réponse.
Vous avez perdu.
Ah, c'est génial.
Pourquoi c'est génial ?
Parce qu'elle a donc fait une pub pour de l'anti-moustique.
Et des cigarettes aussi. Elle a fait plusieurs pubs et donc elle avait fait, en effet, une pub pour de l'anti-moustique.
Vous l'avez ?
Je lave ce que je voulais.
Non, mais vous l'avez la pub ?
Non, je ne l'ai pas.
Ah bah, c'est ça qui aurait été amusant.
Non, mais ce qui est bien, c'est
d'avoir le témoignage sonore.
Oui, je sais bien, mais ça serait trop simple.
Bah oui, bien sûr.
Une question pour vous départager.
D'accord, si vous voulez.
1896, un record est battu. C'est le 27 août de cette année que la guerre la plus courte éclate.
Ah bah c'est la guerre Zanzibaro-anglaise.
Oui. Exactement, elle a duré...
3 minutes.
Un peu plus, je crois. Non, plus que ça. Ça a duré... Est-ce que c'est pas 8 minutes et quelques ou 9 minutes ? Attends, 29 minutes.
1h37.
Je devrais savoir.
Enlevez juste le 1h.
37 minutes.
37 minutes. Depuis 1964, le gouvernement révolutionnaire de Zanzibar est une entité administrative autonome de la Tanzanie. Qui est né dans le protectorat de Zanzibar ? Plusieurs propositions. Le chanteur Freddie Mercury, le chanteur Antoine ou Jacques Attali ?
Antoine.
Freddie Mercury.
Je vous rappelle qu'il y avait des diamants en jeu aujourd'hui. Et comme c'est une grosse pince, il a réussi à éviter ça. Il a gagné. C'était Freddie Mercury.
Ouais.
C'est Stéphane qui a gagné. Freddie Mercury qui est né en 1946 de son vrai nom, Farouk Boulsara.
Bravo.
Ce protectorat britannique vient du sultanat de Zanzibar, devenu indépendant en 1963.
Stéphane, nous, les prolétaires, on va vous donner un petit seau de charbon, parce qu'on ne peut pas faire beaucoup
mieux. Ah oui, ce serait bien pour la centrale de Saint-Avold.
Ou un galet, ça vous va ?
Un galet, si vous voulez.
D'accord.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, continue avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez, Olivier Pouls et nos personnages du jour qui ont fait voir la vie en rose. Après Fernand d'Olivier, qui l'a fait voir au peintre Pablo Picasso, je vous raconte celle qui a chanté la vie en rose et nous en a fait tous profiter, Édith Piaf, évidemment. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter le président du Stade français qui a fait voir la vie en rose à ses joueurs, lui.
Oui, Max Guasini a choisi d'habiller ses joueurs de rugby d'un maillot rose qui n'est pas passé inaperçu sur le terrain, qui quitte à se faire chambrer par leurs adversaires, vous verrez.
Oui, mais je vais le porter, alors.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
La foule, mon manège à moi, l'hymne à l'amour, Si son répertoire comprend d'innombrables succès, il en est un qui est devenu si culte qu'il fait désormais partie du patrimoine français, La vie en rose. Je vous raconte maintenant la vie pas toujours rose de celle qui fut son interprète, la môme de la rue qui a dédié toute son existence à la chanson, la grande Édith Piaf. Nous sommes en octobre 1946 au Théâtre de l'Étoile à Paris. Ce soir-là, pour la première fois, Édith Piaf entonne « La vie en rose ».
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
À 30 ans, celle que l'on surnomme la môme est déjà une vedette. Interprète à la voix d'or, elle s'est rendue célèbre avant la guerre en magnifiant sur scène les textes des autres. Mais le tour de chant de cet automne 1946 a quelque chose de différent. Cette fois-ci, le morceau qu'elle interprète est le sien. Un an plus tôt, elle en avait écrit une ébauche pour son amie Marianne Michel. « Mais s'il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, moi je vois des trucs en rose », disait alors la chanson. Marianne Michel, qui la chantera avant Édith Piaf, lui aurait alors suggéré de modifier un détail d'importance. Il fallait remplacer ces trucs en rose, manquant de poésie, par « La vie en rose ». Cette correction judicieuse, accompagnée de l'aide du parolier Henri Contet pour perfectionner la syntaxe du texte, vont bientôt faire de ce premier hymne à l'amour un tube, que dis-je, un triomphe dans le monde entier. Enregistré en studio en janvier 1947, « La vie en rose » est indéniablement le plus grand succès d'Édith Piaf, mais aussi l'un des rares titres optimistes de son répertoire. Il faut dire que dans la vie, dans la vraie vie de celle qui s'appelait en réalité Édith Gassion, tout n'a pas toujours été rose. Très tôt, sa mère préfère se consacrer à son métier de chanteuse de cabaret plutôt que de s'occuper d'elle. Et son père, un acrobate contorsionniste à la vie dissolue, est quant à lui souvent absent. Gardé un temps par sa grand-mère maternelle, Édith est finalement confiée vers l'âge de 2 ans à ses grands-parents paternels qui tiennent une maison close dans la commune de Bernay, en Normandie. La môme grandit là, dans l'atmosphère malsaine d'une maison de plaisir où elle ne reçoit de l'affection que de quelques pensionnaires et une bien maigre éducation. Après un bref passage sur les bancs de l'école, la fillette part à 7 ans sillonner la France avec son père. Jusqu'à 15 ans, Édith assiste l'artiste ambulant en faisant la quête à la fin de ses numéros et parfois, pour attendrir le public qui les nourrit, en poussant même la chansonnette. Elle ne paye pas de mine, cet enfant du pavé, avec sa frêle stature et son regard triste. Rien, en apparence, ne laisse alors présager son futur succès. Rien, jusqu'à ce qu'elle se mette à chanter. Alors quand son père lève le pied au début des années 30, Miss Édith, comme on la surnomme alors, poursuit seule sa carrière de chanteuse de rue à Paris. Dans les casernes militaires, les bals populaires ou au pied des immeubles des faubourgs appauvris par la crise de 29, la môme rencontre ses premiers admirateurs et vit ses premières amours.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Louis Dupont, dit petit Louis, est le premier des nombreux amants d'Édith. Il est le père de la petite Marcelle, dont l'artiste accouche à 17 ans, mais qui meurt seulement quelques mois plus tard. Un traumatisme de plus pour celle qui continue malgré tout de chanter les airs populaires de l'entre-deux-guerres dans les rues de Belleville, de Pigalle ou des quartiers chics. Avec son amie Simone Berthaud, une ouvrière de 4 ans, sa cadette, Édith court les bars, les cabarets et les hôtels. Elle fume et boit à l'excès, séduit les crapules, se fait entretenir par un souteneur qui devient un amant et se rend même complice de vol. À l'évidence, cette vie de débauche aurait pu se terminer dans la misère et l'oubli si Édith n'avait pas rencontré un certain Louis Leplay, patron du prestigieux cabaret, le Gernis. À l'approche de ses 20 ans, à force de faire entendre sa voix formidablement éraillée, roucoulante et puissante, la fleur du pavé éclot enfin. Louis Leplay donne sa chance à Édith Gassion et lui impose son nom de scène. Elle sera désormais la môme Piaf.
C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont, sans un rond en poche, c'est nous les paumés, les purés.
Cette chanson, les mômes de la cloche, qui lui va comme un gant, est l'une des premières qu'Édith Piaf enregistre en 1935, et des centaines d'autres vont bientôt suivre. Le talent immense de ce drôle d'oiseau vêtu sur scène de sa mythique robe noire inspire de nombreux auteurs. Raymond Asso, Henri Contet et Georges Moustaki, pour n'en citer que 3, signent respectivement mon légionnaire, le célèbre Padam Padam, et l'entraînant Milord.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire.
Chacun leur tour, ils deviennent les amants de la môme qui enchaînent les collaborations comme les ruptures. Rapidement, le thème des passions éphémères l'emporte ainsi sur les airs canailles qu'Édith Piaf chantait à ses débuts. La valse amoureuse que cet artiste blessé dansera tout au long de sa vie lui inspire notamment les paroles de son tout premier texte.
Il y en a un qui mordra marteau, l'autre c'est lui qui mord dans la peau.
Enregistré en 1940, Il y en a un de trop marque le début de la riche carrière d'auteur d'Édith Piaf. Elle a désormais 24 ans. Elle, qui était presque illettrée, adolescente, améliore alors son français avec l'aide de ses amis musiciens. Et c'est de sa plume que naît, après La vie en rose, l'une des plus inoubliables chansons de son répertoire, écrite pour celui qu'elle aime, le boxeur Marcel Cerdan, juste avant qu'il ne décède tragiquement dans un accident d'avion en 1949. Cerdan, à qui elle adresse son poignant hymne à l'amour.
Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, ma porte, si tu m'aimes, par moi je mourrai aussi.
Malgré le chagrin qui ne la quittera plus jamais après sa disparition et les addictions qui la consument à petit feu, Édith Piaf poursuit les enregistrements, les concerts, en France comme aux États-Unis, et les apparitions au cinéma aussi. Elle fréquente d'autres hommes, dont le chanteur Jacques Pils, qu'elle épouse à 36 ans, puis le compositeur Charles Dumont, l'une de ses dernières rencontres. En 1960, lui et le parolier Michel Vauquer offrent à Édith Piaf son ultime chef-d'œuvre. À sa mort, 3 ans plus tard, la chanson sonne comme les adieux de la môme après presque 48 ans d'une vie, parfois plus noire que rose, mais dont elle ne regrette rien. Non, rien de rien.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Et pour continuer à parler d'Édith Piaf, nous avons le plaisir d'accueillir une chanteuse qui chante Piaf aujourd'hui. Bonjour Chimène Badi.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Chimène, nous sommes ravis et honorés de vous recevoir dans Historiquement Vôtre.
C'est moi qui suis ravie.
Aujourd'hui, en chantant Piaf, vous attaquez un monument de la chanson française, comme on dit, mais vous n'êtes pas la première. Est-ce que ça suscite chez vous autant de peur que de joie de lui redonner vie par votre voix ?
Ça suscite plutôt beaucoup de joie, parce que je suis très heureuse de pouvoir enfin me sentir capable d'aller chanter ses œuvres. Moi, Édith Piaf, c'est une artiste que j'aime depuis que je suis toute petite, mais réellement, depuis 4 ou 5 ans, c'est grâce à ma mère que j'ai pu connaître cette artiste. Et en fait, j'ai grandi avec elle, elle m'a bouleversée vraiment et énormément inspirée. Et j'ai toujours eu dans l'idée de la chanter un jour. Mais je partais du principe quand même qu'il me fallait aussi mon propre vécu, ma propre histoire de femme, pour pouvoir interpréter de la manière la plus juste possible ce que raconte Édith. C'était important.
Qu'est-ce que pour vous, la vie en rose a de plus que les autres ?
Bah déjà, effectivement, elle est peut-être un peu plus positive que ce qu'on peut entendre habituellement des chansons d'Édith Piaf, parce que Édith, c'est vrai que c'est une amoureuse de l'amour qui a chanté beaucoup l'amour énormément. J'ai le sentiment qu'elle s'est jamais vraiment dissociée de ses chansons. Je crois que c'était vraiment un vécu qu'elle nous racontait. Et puis, je crois qu'elle était aussi narratrice de certaines histoires dont elle a dû être témoin. Ça, c'est vrai aussi. Mais La vie en rose, c'est quand même une chanson qui reste lumineuse. Et c'est vrai que c'est pas forcément la touche d'Édith Piaf. Donc, pour moi, c'est quand même ce qui fait aussi la différence. Et puis, ça reste une des chansons, si ce n'est la chanson la plus connue d'Édith Piaf dans le monde.
Oui, absolument. Parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, La vie en rose a fait le tour du monde, a été reprise par des centaines d'artistes. On va d'ailleurs en écouter quelques-unes. Marlène Dietrich, Grace Jones, Madonna ou encore Josephine Baker.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie
plein des versions.
En rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours.
et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur.
Ce n'est pas le bonheur dont je connais le cause. Et lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Une mélodie, lingerie pour la vie.
Et il y avait aussi une version très surprenante de Iggy Pop.
Ah ouais,
ouais.
Elle me prend dans ses bras. Elle me parle tu m'as.
C'est étonnant.
C'est vrai. Ça t'emmène ailleurs.
Mais Chimène, au-delà de la version de son auteur et interprète originel, est-ce qu'il y a une version de La Vie en Rose que vous aimez, vous en particulier, qui vous inspire?
Évidemment, alors il y a évidemment l'original, hein, ça ouais. C'est sûr, mais je dirais celle de Louis Armstrong, parce qu'elle est particulièrement imprégnée de ce que Louis Armstrong sait faire, et c'est une version vraiment atypique que j'aime beaucoup.
Pia, vous la chantez donc, vous aussi, on vous écoute d'ailleurs.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien aidé. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, c'est payé.
Il y a quelque chose quand même de lumineux aussi quand vous chantez.
C'était important.
Oui.
Alors déjà naturellement c'est quelque chose qui m'anime particulièrement de chanter ce répertoire.
Vous êtes une femme positive
d'abord. Oui, plus le temps passe et je me rends compte que oui effectivement je suis plutôt très positive même. Mais c'est un répertoire que j'aime vraiment beaucoup sincèrement et c'est, je vibre en chantant Piaf et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Vraiment.
Et justement, est-ce que vous accepteriez de nous chanter un extrait de la Vie en Rose dans ce studio?
Oui, bien sûr.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur. Dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
et que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Merci. Magnifique. Chimène Badi, merci, chère Chimène, d'être venue avec nous sur ce monument de la chanson française que vous avez fait revivre à l'antenne avec nous cet après-midi pour réinterpréter ces titres les plus iconiques dans un nouvel album. Chimène chante Piaf, qui sort le 20 janvier 2023, mais aussi sur la mythique scène de l'Olympia, le 22 janvier, qui marquera le coup d'envoi d'une tournée de près de 50 dates à travers toute la France. Et on se quitte avec votre version, celle que vous préférez, celle de Louis Armstrong.
Super, merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez et Olivier Pouls, on réunit des personnages qui leur ont fait voir la vie en rose. Après Fernand Olivier et Édith Piaf, vous nous racontez Jean-Luc, le président du Stade français, qui a fait voir la vie en rose à ses joueurs, Max Guazzini.
Ici, Londres.
Max Guazzini est un homme qui révolutionne tout ce qu'il touche. C'est grâce à lui que l'AFM a pu se développer en France dans les années 80, à tel point que Energy, la station qu'il a dirigée, était dans les années 2000 la radio la plus écoutée. Et ça, Max voulait que ça se sache. Oui, autant le mettre dans un jingle, pour bien faire passer l'info. Max Guazzini, c'est l'art et la manière de tout transformer, en beaucoup mieux. Vous lui donnez un Yorkshire, il le pimpe en Labrador. Et c'est en cassant les codes qu'il va rendre le rugby ultra sexy. Passer de la radio au rugby, facile pour lui, le roi du grand écart. À l'âge où les petits garçons rêvent de devenir pompiers, le petit Max, originaire de Marseille, rêve, d'après vous, de quoi il rêve? Il voulait devenir quoi, Max Guazzini?
Coiffeur.
Non.
Dalida.
Dalida, non. Ça sera plus tard.
Un truc chic ou pas, genre? Ou
alors... c'est surprenant.
C'est surprenant.
Quand on connaît la suite, c'est surprenant.
Parfumeur.
Non.
Il voulait... enfant de cœur.
Pas loin. Il voulait devenir prêtre. Ah. Oh. Max ne veut aller que dans des écoles catholiques. Finalement, il abandonnera l'idée car c'est une vie trop difficile et puis surtout l'abstinence, c'est pas vraiment son truc.
Ah, oui.
J'ai l'impression qu'il y a des dossiers autour de lui. Sur Paris, il commence des études de philo et de droit pour opérer un virage à 180 degrés en devenant chanteur. Nous sommes en 1974 et un soir où il sort, il est repéré par Orlando, qui est plus impressionné par son physique que par sa voix. Mais il va quand même le produire, sous le nom de Manuel Guazzi.
Oh, 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 amoureux, je suis amoureux d'elle. J'en rêve la nuit, pour elle j'oublie tout.
Malheureusement, malgré les textes de Pascal Sevran et le soutien de Dalida qui l'impose sur tous les plateaux, le public ne tombe pas vraiment amoureux de ce titre. Il laisse tomber la chanson et devient alors l'impresario de Dalida.
Ah,
chez elle, il croise presque autant d'hommes politiques que sur un plateau de Cyril Hanouna. Et de tous les bords, Mitterrand, Sarkozy, Jack Lang, Delanoé, il en profite pour se faire un solide carnet d'adresses. En 1982, ses compétences juridiques le mènent dans la radio libre Énergie, qui va devenir sous sa direction la station qui fait et défait les carrières. Madonna, Sting ou encore Mick Jagger lui mangent dans la main et il lance des groupes comme Image, Début de soirée ou encore Europe. Tout lui réussit à Max. Alors quand, en 1992, on lui demande de relancer le Stade français, alors en 4ème division, il se frise les moustaches. Il a déjà plein d'idées pour relooker ce sport qui n'attire pas les foules et qui sent bon le cassoulet. Avec lui, le rugby à papa va devenir tendance. Stéphane Plaza, pourtant expert en homestaging, n'en croirait pas ses yeux. Max met la musique à fond, va chercher Bernard Laporte, lui enlève son vieux survêt et lui met un costard cravate. Ensuite, il les sélectionne de la graine de champion. Moscato, Dominici, Gomez, Dominguez, il baisse le prix des places et propose pendant les matchs des animations qui feraient passer le Super Bowl pour une fête de Noël de la COGIP. Des pom-pom girls, des catcheurs, des concerts, les danseuses du Moulin Rouge qui labourent le terrain avec leurs talons. C'est une régalade absolue. Le ballon du match descend du ciel avec un ange ou arrive sur le nez du notari. Rien n'est trop grand, rien n'est trop fou. L'autre autre révolution, évidemment, ce sont les maillots. Avant, les maillots sentaient juste la transpiration. Depuis Max, ils sont conçus pour qu'on ait envie de les porter en discothèque. En 2005, à Perpignan, l'équipe de Dominici rentre en maillot rose, sous les yeux médusés du public qui leur réserve un accueil vraiment charmant, hein, comme le dirait ironiquement Jérôme Filleul. Un flot d'injures qui émet des suppositions sur l'orientation sexuelle des joueurs et que je m'abstiendrai bien de vous répéter. Le Stade français perd de peu, mais réussit un sacré coup médiatique. Et hop, 20 000 maillots vendus. Mais alors, pourquoi du rose? Pour déconcentrer les adversaires? Pour choquer les puristes un peu trop bas de plafond? Pour rendre hommage aux trois petits cochons? En fait, c'était tout simplement un problème de teinture. La couleur argent initialement prévue ressortait grise. Alors, Max a tenté le rose. À sa grande surprise, Adidas dit oui, et les joueurs sont emballés.
What the fuck?
Si. Ils ont voté à main levée. Même s'ils avouent que ça se sentit comme des petits porcelets quand ils sont rentrés pour la première fois sur le terrain. Mais si Max a pensé au rose, c'est aussi pour sa symbolique religieuse. Ça vous étonne, hein?
Ben oui.
Dans la religion catholique, le rose porté par les prêtres avant Noël et avant Pâques est synonyme de réjouissance à venir, comme un match qu'on va gagner. Du coup, il récidive avec un autre maillot rose devenu mythique, le Blanche de Castille, qui n'est autre qu'une vierge pop art customisée pour contourner l'interdiction faite par Adidas. Max, qui va tous les dimanches à la messe, fait rimer religion et paillettes. Max, un homme à part dans le monde du rugby. En 1997, alors que son équipe se prépare à jouer contre Bègles, il arrive très ému dans les vestiaires avec une robe de Dalida sur un mannequin. Cela fait 10 ans, jour pour jour, que la chanteuse est morte et il tient partager avec ses joueurs.
Quand t'es quand même élevé un peu à la mamelle au terroir, quoi, tu vois, c'est que t'es quand même un peu compliqué, la robe de Dalida.
Et pourtant, Vincent Moscato, qu'on vient d'entendre, en garde un merveilleux souvenir, même si c'était lunaire. Mais tout le monde adhère et c'est une vraie cohésion qui se crée au sein de l'équipe qui, sous sa présidence, monte en première division et 5 fois championne de France et remplit les stades. Oui, enfin, ce que vous attendiez depuis le début, Stéphane, je vous connais. Le calendrier des dieux du stade. En 2000, Max entend parler d'un calendrier à l'étranger dans lequel des sportifs sont dévêtus et il trouve étrangement que c'est une bonne idée. Les joueurs se proposent spontanément pour être dedans, même si personne ne veut faire février, le mois le plus court. Le critère de sélection, les abdos. Les abdos. S'ils ont du ventre, c'est pas possible. Résultat, des photos très artistiques avec des rugbymen tout en muscles et des ballons qui servent de cache-sexe. Du moins dans les premières éditions. Ensuite, on a surtout eu des sexes qui servaient de cache-ballons. Aujourd'hui, le rugby garde une image branchée, même si Max est parti mettre sa magic touch ailleurs. Adepte des messes en latin, il a sorti en 2011 un album de chants grégoriens qui est devenu disque d'or. Ça manque de fun, les chants grégoriens? On peut croire que c'est pas fun, mais c'est mal connaître celui qui a inventé le catoglame. Dans le clip, les 12 apôtres sont jeunes et sexy. Eh oui, Max Guazzini n'a pas fini de nous faire voir la vie en rose. Son projet ultime? Devenir moine. Vous imaginez l'ambiance dans le monastère?
I like to move it, move it. I like to move it, move it.
Non, ça c'est une blague. Non, il veut vraiment devenir moine. Après, la musique, oui, c'est une blague, mais...
Oui. Ah, je savais pas du tout.
Il a plein de projets. Oui. Et puis, il est très croyant.
Oui, je vous crois. Merci beaucoup, Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui nous ont fait voir la vie en rose pour retrouver deux garçons qui préfèrent le rosé au rose. Enfin, un en particulier, je sais pas. Mais d'abord, David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines de la couleur rose qui est aujourd'hui notre fil rouge.
Tout à fait.
Et avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte dans les années 50 lorsque la télévision s'invite dans les foyers pour les plus privilégiés, que la cuisine s'invite, elle, à la télé, Olivier.
Bah oui. Impossible aujourd'hui d'allumer sa télévision sans tomber sur un programme culinaire, il y en a partout. La relation entre la petite lucarne et la cuisine avait pourtant, vous allez le voir, assez mal démarré. C'était il y a 70 ans. Alors si la première émission de télévision tout court a été diffusée en France en 1935, il faut attendre 1953 pour voir naître un programme dédié à la cuisine. Et alors ce programme s'appelle « Les recettes de Monsieur X ». Et le monsieur X en question, c'est pas un chef, c'est un acteur, il s'appelle Georges Adet. Alors il porte un tablier blanc sous un costume noir strict et présente à 19h30, une heure de grande écoute, à l'époque déjà, hein, une recette très simple, dans un décor tristounet qui pourrait être sa cuisine. L'image est statique et le ton est, comment dire, écoutez.
Aujourd'hui, je vais faire un plat très simple, des œufs à la tripe. Mais il y a différentes façons de faire ce plat, je vais vous donner la mienne. Tout d'abord, pourquoi œufs à la tripe? Parce que tripe, qui désigne en général les intestins des animaux, vient d'un mot saxon, un vieux mot saxon, et qui veut dire lanière. Et voilà pourquoi on découpe les œufs en lanière, c'est-à-dire en fines rondelles, ainsi que les oignons.
J'adore ce tombe, c'est incroyable. Mais est-ce que c'est un succès à l'époque?
Ben pas du tout. Alors il faut dire que le bonhomme manque un peu de charisme et aussi de crédibilité sans doute. La direction de la RTF, à l'époque la radio-télévision française, reçoit des dizaines de lettres de téléspectateurs qui se plaignent du manque d'intérêt du programme et l'émission s'arrête un an après. Mais elle est remplacée immédiatement par un programme qui est lui baptisé « Art et magie de la cuisine ». Là on rentre dans le sérieux les amis, pour la présenter... Un duo qui va, lui, marquer l'histoire de la télévision en général, Catherine Langer et le truculent chef triplement étoilé de l'époque, Raymond Oliver, qui est officier au Grand Véfour. Alors là, on rigole plus, les recettes sont plus pointues, le chef impose son charisme, l'émission cartonne et restera à l'antenne jusqu'en mai 68, soit durant 14 années. Quelques séquences sont encore cultes, hein. Elles démontrent qu'en un demi-siècle aussi, la cuisine a évolué. Je vous propose d'écouter un petit extrait.
C'est du rhum qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets environ trois fois plus ou deux fois plus que je n'ai mis d'anis. C'est-à-dire un tiers environ d'anis, deux tiers de rhum.
Et en tout?
Et en tout, ça doit donner un très grand verre à vin. Un très grand verre à vin de Bordeaux, c'est-à-dire pas loin d'un quart de litre.
Je m'approche un peu du plat parce que c'est bien sympathique.
On peut en manger des quantités de crêpes comme ça. Elles ne sont pas grasses, elles sont sèches.
Bon, eh bien écoutez, je pense que cette recette va plaire à nos spectateurs qui n'ont pas de four.
Oui, la recette des crêpes par Raymond Oliver, je peux vous garantir, c'est cuit. Et j'ai enlevé la séquence où il rajoute encore de la bière.
Oui, c'est ça. Mais qui va prendre la relève?
Eh bien, dans la famille Oliver, après le père, je demande le fils. En 1978, Michel Oliver, donc le fils de Raymond, se retrouve sur Antenne 2 à l'époque aux côtés d'Anne-Marie Pesson le samedi. Et ça, je me souviens, je le regardais. Pour La vérité est au fond de la marmite. L'émission va durer jusqu'en 1983. Les années 80 seront aussi marquées par un célèbre duo. Maïté et Micheline, évidemment.
Mais quand on les écoute d'ailleurs, c'est assez proche de Raymond Oliver. Il y avait un côté très naturel avec la cuisine des mousquetaires.
Ah, c'est complètement cash, c'est extraordinaire. Ça fera le succès de FR3 entre 83 et 97. On peut encore citer évidemment Joël Robuchon et son fameux « Et bon appétit », bien sûr. Et puis viendront dans les années 2000 la télé-réalité « Top Chef »,« Master Chef »,« Cauchemar en cuisine » et aussi les petits plats en équilibre sur TF1 avec l'ami Laurent Mariotte, qu'on salue, qui livre ses recettes quotidiennes, lui, depuis 2008.
Bah merci beaucoup, Olivier. Et puis, on rappelle la table des bons vivants, hein, quand
le
même,
samedi.
Puisqu'on parle de Laurent Mariotte.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, mais avec vous maintenant, David Castel-Lopez. Vous nous avez promis la couleur rose, la voici.
Oui. Est-ce que vous saviez, messieurs, que le rose est une couleur que les gens n'aiment pas beaucoup?
Oui.
Moins de 2% des gens en Europe citent le rose comme leur couleur préférée, contre par exemple 45% pour le bleu, 15% pour le vert et 12% pour le rouge. Premier fun fact dans cette chronique qui en sera toute hérissée. Ces chiffres, ils viennent du spécialiste incontesté de l'histoire des couleurs qui a donné à peu près toute la matière de cette chronique et qui s'appelle
Michel Pastoureau.
Michel Pastoureau, vous-même, vous savez. Les gens, donc, n'aiment pas beaucoup le rose dans l'ensemble, alors que c'est quand même une couleur qui évoque des choses pas mal. C'est la couleur de la pornographie, par exemple, non. Et du charme. Le carré rose.
Non,
de
mais les roses qu'on offre, par exemple.
Oui.
Les
mais
roses
même...
roses.
Oui, voilà, y a ça aussi. Mais
le téléphone rose.
Le téléphone
cochon.
La feuille de rose.
Oui. On est à l'heure du goûter, là.
Mais, exactement. Ouais. C'est un peu, le truc, c'est que pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un peu énigmatique.
Ouais. C'est l'eau de rose.
L'eau de rose.
Un feuilleton à l'eau de rose.
Exactement.
La bibliothèque rose.
Tout à fait, toutes ces choses très bien. La vie en rose. C'est la couleur aussi qu'on prend pour dessiner la chair des personnes à la peau clair, même si au passage, les peaux claires ne sont pas plus roses qu'elles ne sont blanches, jaunes ou rouges. Le rose, c'est aussi une couleur relativement récente. Alors, il faut s'entendre, hein, le rose, ça existe dans la nature. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas récent.
Les flamants roses.
Les flamants roses, par exemple. Oui. Mais ce rose dans la nature, pendant longtemps, il n'a pas été considéré comme une couleur spécifique. C'était considéré comme une nuance d'une autre couleur qui est le...
Le rouge.
Eh ben non, perdu. Le blanc. Une nuance de jaune.
Non.
Pendant longtemps, le rose a été... Alors, c'est très très chelou de l'imaginer, et pourtant, c'était considéré comme une nuance de jaune. En latin, le rose, il avait quand même un nom, mais on l'appelait la couleur pâle. Ce qui est pas très spécifique. Et puis surtout sur le rose, ce qui est intéressant à dire, c'est que ça fait relativement peu de temps qu'on sait fabriquer du rose sur commande. Alors pas peu de temps, il faut s'entendre, c'est le 14e siècle quand même, mais ce n'est que au 14e siècle donc qu'on a réussi à le faire. Comment? Eh bien, grâce à un bois rouge importé d'Asie qu'on appelle le bois Brésil, dont l'intérieur est rouge comme s'il était en train de brûler, comme si c'était des braises, d'où le nom de bois Brésil. De ce bois, on est arrivé à tirer non seulement...
C'est ce bois d'ailleurs qui a donné son nom au pays.
Tout à fait,
le Brésil.
C'est ce que je m'apprêtais à dire.
Pardon, excusez-moi. Non, non, mais je pensais qu'on...
Tueur de fun fact. L'assassin des fun facts. De ce bois, on est arrivé à tirer non seulement du rouge, mais aussi des oranges et du rose. Et donc, dans la foulée, le rose a fait son apparition dans les vêtements des aristocrates, la peinture, les enluminures et tutti quanti. Ensuite, en Amérique du Sud, les colons occidentaux ont trouvé sur place de nouvelles variétés de bois, et en particulier de nouvelles variétés de bois Brésil, et ils ont tellement kiffé ce nouveau bois encore mieux qu'ils ont baptisé l'endroit du nom du bois. Et oui, comme vous l'avez dit Stéphane, il y a maintenant 2 minutes, c'est à cause du bois Brésil que le Brésil s'appelle le Brésil. Ouais. Si on avait trouvé de la moutarde au Brésil, ben ça serait appelé moutarde, ou plutôt... Moutarde. Voilà, je vais essayer de prononcer moutarde à la brésilienne. La deuxième étape de l'histoire du rose, c'est quand, au XVIIIe siècle, on a réussi à créer des rosiers de couleur rose. Parce que jusque-là, les roses, elles étaient rouges ou blanches ou jaunes, mais pas roses. Alors vous allez me dire, si elles n'étaient pas roses, pourquoi on appelait ça des roses? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est juste que ces nouvelles roses du XVIIIe siècle, elles sont devenues tellement populaires qu'elles ont fini par désigner la couleur. Comme l'orange désigne l'orange, ou le marron. Mais, disons, la fleur rose avant le XVIIIe siècle n'était jamais rose.
C'est la fleur qui a donné son nom à la couleur.
Oui, voilà, c'est cette nouvelle fleur à partir du XVIIIe siècle qui a pris cette couleur qu'aujourd'hui on appelle rose, qui a donné le nom à la couleur. Alors, pour finir, il faut le dire, pendant à peu près toute l'histoire du rose, le rose a été une couleur mixte, pour les garçons ou pour les filles. Mais aujourd'hui, même si ça se perd un petit peu, c'est plutôt une couleur qu'on associe aux filles. C'est pour ça qu'on questionnait l'orientation sexuelle des joueurs du Stade français. Et ça, ça donne envie de savoir comment on en est arrivé là. Comment est-ce que c'est devenu une couleur pour les filles? Alors, l'idée de distinguer les petites filles et les petits garçons avec du bleu et du rose, elle est née dans l'Angleterre victorienne au 19e siècle. Mais le truc, c'est que c'était pas, à partir de ce moment-là, forcément dans le sens qu'on connaît. Par exemple, en Belgique, en 1927, le prince Léopold et la princesse Astrid de Belgique, ils attendaient un enfant. Et comme toujours, ils espéraient très fort que ce soit un garçon. Et sans doute pour essayer de faire pencher le sort, il y a un article de l'époque qui dit qu'à cette époque-là, ils avaient décoré la chambre de l'enfant à venir en rose. Donc ce que ça veut dire que le rose, pour eux, c'était la couleur des garçons. Mais ceux qui ont genré le rose et le bleu de façon super forte, ce sont les vendeurs de vêtements pour enfants américains, un petit peu plus tard. Parce que évidemment, si on fait des couleurs différentes pour les garçons et les filles et que tout le monde suit le mouvement, eh bien les gens qui ont un enfant de chaque sexe ne peuvent pas refiler les vieux vêtements de l'un au second, et donc ça fait que dans ces cas-là, on vend 2 fois plus de vêtements, donc c'est intéressant d'un point de vue
commercial. C'est purement commercial, vous pensez?
En tout cas, ce
genre de la couleur.
Ce genre de la couleur, il y avait un début dans l'Angleterre victorienne, et aussi on l'a vu en Belgique, mais en tout cas, le truc qu'il a entériné complètement, ce sont les vendeurs de vêtements américains. Mais une fois de plus, ce n'était pas figé dans le sens qu'on connaît, rose pour les filles, bleu pour les garçons. Par exemple, il y a un sondage qui a été fait en 1927 dans tous les États-Unis pour demander aux gens s'ils pensaient que le rose c'était plutôt pour les filles ou plutôt pour les garçons ou l'inverse, eh bien c'était encore 50-50. C'est-à-dire qu'il y avait personne ne disait le rose c'est absolument pour les filles. Les gens étaient partagés. Et la vérité c'est que c'est assez difficile de savoir exactement pourquoi c'est finalement le rose pour les filles qui a gagné. Il y a un moment ça a dû pencher, finalement tout le monde a suivi le mouvement. En tout cas, comme je vous l'ai dit, le rose n'est pas une couleur très appréciée des gens et elle n'est pas non plus super appréciée des États. Au moment où je vous parle, par exemple, aucun pays dans le monde n'a de drapeau avec du rose dessus.
Ça doit être très difficile à reproduire.
Peut-être.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont redonné vie à Mary Stuart, née il y a 480 ans. La star d'Hollywood Katharine Hepburn, qui lui a prêté ses traits et son talent, puis une comédienne qui lui a redonné vie à la télévision à l'époque où le cinéma et elle étaient brouillés, Annie Girardot. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez une légende choisie pour en incarner une autre sur scène.
Oui, Isabella Gianni a été Mary Stuart aussi. À moins que ce soit Mary Stuart qui a été Isabella Gianni, qui sait. On verra ça demain.
Oui, faisons comme ça. À demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.